Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Immo et Axéo, avec Johanna Silberstein.
Et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du bâtiment optimisé, l'émission coproduite par Radio Immo et Axéo qui vous donne les clés pour améliorer la gestion de vos bâtiments, pour les optimiser. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons tomber sur un nouveau sujet, nous allons parler du financement intégral de l'installation et du remplacement d'ascenseurs dans les bâtiments sociaux grâce à l'accessibilité, vaste sujet. Et avec nous pour en parler, notre expert Axéo comme tous les mois, aujourd'hui c'est Aymeric Crégu. Bonjour Aymeric.
Bonjour.
Premier passage dans le bâtiment optimisé, tout va bien ?
Merci de l'accueil.
On est ravis de vous accueillir. En tout cas, je vais quand même rappeler que vous êtes directeur métier Axéo Elevation pour le bureau d'études Axéo. Vous êtes également notre spécialiste ascenseur. On va rappeler rapidement qu'Axéo est un bureau d'études en bâtiment. Axéo Elevation est cette division spécialisée en conception et en installation d'ascenseurs. Et avec nous, Pascal Nem. Bonjour Pascal.
Bonjour.
Vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage pour Loire Habitat. Alors en quelques mots, Loire Habitat, c'est l'office public de l'habitat OPH du département de la Loire. Ça représente 12 000 logements gérés, 25 000 locataires logés sur 40 communes. Une véritable expertise des personnes âgées, des personnes en perte d'autonomie et de la problématique du maintien à domicile avec la structuration il y a 15 ans d'un service dédié aux établissements médico-sociaux. On peut dire qu'on est totalement dans le sujet avec vous.
Exactement, et on va évoquer tout ça ensemble.
Eh bien on va y aller, si tout le monde est prêt, on va attaquer par le sujet du jour.
Le bâtiment optimisé, le sujet du mois.
L'accès au logement est un enjeu sociétal majeur et un droit universel. Dans l'habitat social, pour garantir ce droit à tous et notamment aux personnes en situation de handicap, la réglementation fixe certaines obligations et incitations. Techniquement parlant, certaines règles d'accessibilité sont à respecter pour les logements neufs et les logements déjà existants. Aujourd'hui, un des meilleurs moyens pour rendre accessible à tous un immeuble, c'est évidemment d'y mettre un ascenseur. Ça ne semble pourtant pas être le moyen le plus facile à mettre en œuvre et pourtant, il peut être financé intégralement. Sachez également qu'il valorise le bâtiment et qu'il améliore le confort de tous les habitants. Alors comment ça marche? Est-ce vraiment rentable? Et comment procéder? On va essayer de répondre à toutes ces questions et même un peu plus avec nos deux experts du jour.
Le bâtiment optimisé, le décryptage des experts.
Et une fois n'est pas coutume, on va commencer aujourd'hui par interroger Pascal. Alors Pascal Nem, accessibilité, habitat social, quel est le contexte à connaître à date avant de démarrer ?
Alors déjà accessibilité effectivement et habitat social, mais au-delà même accessibilité et population française, puisque le vieillissement de la population est vraiment une problématique nationale. Et c'est une problématique qui est particulièrement marquée sur le département de la Loire, qui est un département assez vieillissant. Aujourd'hui, dans la Loire, il y a plus de 200 000 personnes, 25% de la population, qui est une population âgée de plus de 70 ans, et c'est une population qui devrait passer à plus de 30% à l'horizon 2040. Pour un organisme, en redescendant plus micro sur un organisme comme Loire Habitat, c'est 4500 locataires âgés de plus de 70 ans, donc une véritable problématique d'accessibilité à mettre en œuvre. Notre patrimoine, il est composé d'énormément de logements collectifs, construits à une période où la réglementation n'imposait pas la mise en place d'un ascenseur ou l'imposait uniquement à partir du R+5. On a donc énormément de bâtiments en R+4. Et on se retrouve aujourd'hui avec ces bâtiments qui sont à modifier, à restructurer, à aménager. Il faut qu'on puisse, bien entendu, y faire quelque chose parce que la problématique, elle est là. Les locataires sont là. On doit satisfaire nos locataires. Et donc, c'est pour ça que notre plan stratégique de patrimoine, PSP, a travaillé au-delà de la question de la réhabilitation sur un sujet spécialement dédié à l'accessibilité des logements.
Au niveau réglementaire, est-ce qu'il y a des obligations ou peut-être même des incitations ?
Alors, réglementairement, les obligations existent pour les logements neufs. La réglementation s'est durcie ces dernières années. En 2019, on est descendu d'un étage. Ce qui avant était sur du R+ 4 a descendu au R+ 3. On est sur du R+ 2. On va très certainement être encore incité davantage à mettre des équipements. En tout état de cause, même au-delà de la réglementation, aujourd'hui, on va Loire Habitat au-delà de la réglementation, puisqu'on sait que l'accessibilité, elle est un équipement nécessaire pour la pérennité du groupe, la pérennité du patrimoine et la satisfaction des locataires. Sur le parc existant, il n'y a pas d'obligation réglementaire particulière. Par contre, effectivement, au moment, je vous le disais, où on a étudié la faisabilité de notre plan stratégique du patrimoine. Et même au-delà, on découvre des groupes en discutant avec nos territoires sur lesquels l'accessibilité est vraiment nécessaire. Et nous sommes incités avec les dégrèvements de taxes foncières associées, dont nous dirons un mot juste après, pour installer ces équipements dans les bâtiments.
Alors justement, on va en dire un mot tout de suite de ce dégrèvement sur la taxe foncière sur la propriété bâtie. Aymeric Crégu, qu'est-ce que c'est que cette chose ?
La loi du 21 décembre 2001 a introduit le dégrèvement dans son article 2. Je vais vous lire la loi, elle est très courte. Les dépenses engagées par les organismes d'habitation à loyer modéré pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versées aux collectivités territoriales. Cette loi a été étendue par la suite, en 2005, aux sociétés d'économie mixte qui ont le même objet dans leur statut.
Alors, comment ça marche et quels travaux peuvent être, peuvent être financés plutôt par ce système ?
C'est les travaux et aménagements qui vont faciliter l'accès aux personnes avec handicap, autant dans les logements eux-mêmes que dans les parties communes qui permettent l'accès au logement. Ces travaux, ils sont... dans l'esprit de la loi, tout travaux qui permettent d'améliorer pour partie ou en totalité l'accessibilité est éligible.
Donc les ascenseurs le sont puisqu'ils permettent à tout le monde finalement d'accéder aux étages les plus élevés.
L'ascenseur est un lien essentiel pour permettre l'accès aux étages lorsqu'il y a aujourd'hui des escaliers pour les bâtiments qui ont été cités par notre partenaire.
Pascal, vous en avez profité sur le parc de Loire Habitat de ce dégrèvement ?
Oui, donc comme je vous le disais, effectivement, sur le plan stratégique de patrimoine, on a identifié des équipements et aujourd'hui, c'est une véritable campagne, c'est un véritable projet au sein de Loire Habitat, puisque 70 équipements, de l'ordre de 70 équipements, ont été identifiés. D'ores et déjà, c'est une quinzaine d'ascenseurs qui sont mis en place, qui ont été étudiés, mis en place, qui sont livrés, qui sont en service. Et donc, il reste vraiment du travail pour aujourd'hui et pour demain. Nous sommes sur un rythme de l'ordre de 15 à 20 équipements par an. On parle bien là du patrimoine existant, puisque hors patrimoine neuf sur lequel on installe également des ascenseurs. Juste un chiffre aussi, sur 70 ascenseurs, mise en place, ça représente environ 1500 logements qui seront nouvellement accessibles et donc presque 3000 locataires qui pourront accéder à leur logement en toute simplicité demain. Ce sont des travaux qui sont lourds, qui sont importants. Il y a de très nombreux cas de figure. On intervient dans de l'existant. Donc, toutes les surprises, tous les désordres qu'on peut avoir, on les a. On peut construire des ascenseurs en superstructure extérieure complète. On peut construire des ascenseurs à l'intérieur de cages d'escalier qui sont pratiquement déjà dessinés pour. On peut construire des ascenseurs qui desservent les paliers ou qui arrivent en demi-palier. Aujourd'hui, les centres des impôts acceptent également cette accessibilité simplifiée, même si elle n'est pas totale. Et puis récemment, on a réalisé un ascenseur dans une chambre, dans des chambres. En fait, les chambres de logement sont devenues la trémie de la cage d'ascenseur. Donc, les T4 sont devenus T3, les T3 sont devenus des T2. Et il a fallu reloger les locataires qui étaient dans ces logements-là, puisque nous avions besoin de récupérer une pièce pour créer l'ascenseur. Un ascenseur, globalement, c'est 150 000 à 200 000 euros hors taxe. Quand on donne ce chiffre, c'est vraiment un chiffre qui comprend l'ensemble du projet, c'est-à-dire les études, l'équipement ascenseur et puis tout ce qui peut venir autour, grosses œuvres, électricité, remise en état de la cage d'escalier, etc. On est vraiment sur l'équipement et les études et les travaux associés.
Ouais, c'est le budget global finalement, sans surprise, j'ai envie de dire.
Exactement, c'est celui qui reprend l'ensemble des travaux, le prix de revient complet. Vous parliez tout à l'heure effectivement de dégrèvement de taxes foncières. Le dégrèvement de taxes foncières, aujourd'hui, on en profite à plein et c'est une vraie incitation puisqu'il correspond globalement à cet investissement-là, puisqu'au-delà de l'ascenseur, on peut également y inclure les travaux associés, donc comme on disait, le gros œuvre, la remise en peinture de la cage d'escalier, on est l'électricité, tout ce qui peut être périphérique à cet équipement.
Quand on vous écoute, on a l'impression que c'est beaucoup de travaux, que c'est un peu compliqué, mais qu'en même temps, tout est possible. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les habitants comme pour les gestionnaires. Du coup, quels sont vos bons conseils pour ceux qui voudraient entreprendre ce genre de travaux ?
Alors, des bons conseils, on pourrait en donner trois. La faisabilité technique. Aujourd'hui, les ascenseurs, il faut vraiment se poser toutes les questions en amont. On travaille, on le disait, sur de l'existant, donc toutes les découvertes sont possibles. On perce des dalles pour créer des trémies, on casse des allèges pour créer l'accès au bâtiment. Et donc, on découvre toujours quelque chose en dalle, un réseau non prévu. Il n'y a pas une dalle qui est faite de la même façon et les mêmes réseaux qui passent à l'intérieur. Donc, régulièrement, on peut découvrir un réseau électrique, un réseau d'eau et des choses qui sont à réparer un petit peu en urgence. Il faut également qu'on puisse avoir la place pour derrière déménager, pour passer également sur le palier et circuler avec des paniers, des courses à la main. Donc, c'est vraiment se poser l'ensemble de ces questions pour assurer finalement la mise en œuvre technique après. Donc en 2019, nous avions fait une première campagne de faisabilité avec laquelle nous avions travaillé avec Axéo, qui nous avait accompagné justement pour identifier la faisabilité technique de réalisation sur plusieurs groupes. Et très rapidement, si je peux donner deux autres faisabilités, une faisabilité importante de regarder la faisabilité commerciale aussi, quel est le devenir de ce bâtiment-là, de se pencher sur où est-il placé, comment est-il desservi, comment est-il habité aujourd'hui, est-ce qu'il a vraiment un avenir et un avenir avec un ascenseur. Et puis une dernière sur la faisabilité financière, parce que même s'il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte par les textes de loi, il y a aussi beaucoup de choses qui peuvent être prises en compte après discussion et ténacité des équipes financières des bailleurs sociaux auprès des centres des impôts, parce que l'objectif est vraiment d'aller rechercher le dernier travail associé, la dernière prestation qui peut être dégrévée.
Merci Pascal Nem pour ce retour d'expérience. Aymeric, je vais vous laisser le mot de la fin. Quels sont vos bons conseils pour installer un ascenseur tout en le faisant financer ?
Le bon conseil, ça a été évoqué au départ, c'est déjà de choisir les meilleurs emplacements. Un parc immobilier comme celui de Laura Habitat a de nombreux immeubles qui ont plus de 3 étages ou 4 étages et qui sont généralement bien identifiés par nos clients. L'enjeu derrière, c'est de vérifier quel est l'enjeu technique et financier de cette installation et le bénéfice qu'il y aura pour les habitants. Et c'est vrai que nous avons travaillé avec Laura Habitat à faire une étude préalable sur beaucoup de cages pour prioriser les meilleurs et lancer un programme pluriannuel. Comme il était expliqué, le dégrèvement se fait à l'année N+1 par rapport au paiement des travaux. Donc on arrive sur un programme pluriannuel. Seule la première année entraîne un décaissement. Et les années suivantes, c'est le dégrèvement qui finance les travaux à venir. Donc il y a toute une planification à faire, stratégique, qui se fait entre le client et nous, en identifiant les meilleurs sites et en minimisant les risques. Il y en aura toujours, malheureusement, mais le tout, c'est de les circonscrire au maximum. Par rapport à ces analyses qu'on fait en préalable, il faut toujours faire le ratio entre le bénéfice apporté et le coût de l'installation. Et il faut aussi tenir compte des charges futures pour les locataires. C'est vrai qu'il y a cette faisabilité économique, c'est aussi dans les charges des locataires. Il faut que l'équilibre soit bien trouvé. Et il y a un accompagnement du client à faire pour les dossiers vis-à-vis des impôts, mais aussi peut-être pour les concertations avec les locataires.
Merci Aymeric pour ces quelques conseils. Vous restez bien avec nous. On a encore des questions, mais cette fois, ce sont des questions d'auditeurs.
Le bâtiment optimisé, Axéo vous répond.
Alors on a une première question très pratique. On a beaucoup parlé de ce dégrèvement pour installer un ascenseur. Mais alors, comment procède-t-on pour l'obtenir, Aymeric ?
Il faut d'abord faire les travaux. C'est vrai que la base de la demande de dégrèvement, c'est des travaux qui ont été payés par l'organisme. Et c'est l'année suivante qui va présenter le dossier pour obtenir le dégrèvement. Donc c'est l'année N+1 où le retour peut être fait.
Je voudrais qu'on demande son retour d'expérience à Pascal. Pascal Nem, ça a été compliqué de mettre en place ce dégrèvement ?
Alors le dégrèvement, la relation avec les centres des impôts sont continues, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas que les ascenseurs qui sont concernés par les dégrèvements de taxes foncières. Il y a tous les travaux relatifs à l'accessibilité et aux performances thermiques des bâtiments. Donc c'est aujourd'hui la direction financière chez nous a une grande habitude de travail avec les trois centres des impôts qui sont en activité sur la Loire.
On va encore prendre une question pour terminer. Si mes travaux sont finalement plus chers que le dégrèvement, que se passe-t-il, Aymeric ?
Le dégrèvement, il n'est pas uniquement au niveau de l'entité concernée par les travaux, mais c'est sur un périmètre plus large. Je pense que peut-être Pascal a des informations là-dessus, mais il faut toujours prendre en compte que c'est le centre des impôts qui compte et non pas seulement l'établissement.
Pascal, vous voulez compléter cette réponse ?
Oui, c'est exactement ça. C'est vraiment le centre des impôts. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est à prendre, à bien calculer en amont, parce que parfois, ça peut être un petit peu juste par rapport, en fonction de ce qui se passe sur le reste du patrimoine aussi, puisque ce qu'on disait, hein, le dégrèvement concerne aussi bien des travaux d'amélioration thermique des bâtiments et des travaux d'accessibilité. Les travaux d'accessibilité, ce sont les ascenseurs, mais ce sont aussi tous les aménagements de salles de bain que l'on peut faire. Donc parfois, on est soumis à devoir décaler certaines prestations, donc à voir laquelle, un ascenseur ou la réhabilitation d'un bâtiment, parce qu'on sait qu'on va dépasser le montant de taxes foncières applicables sur un centre des impôts. Donc on peut bien mutualiser plusieurs bâtiments, plusieurs groupes, mais par contre, les centres des impôts, eux, sont uniques et on ne peut pas, il n'y a pas de mutualisation entre centres des impôts.
Merci Pascal d'avoir répondu à cette dernière question. Pascal Nem, merci d'ailleurs d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de la maîtrise d'ouvrage de Loire Habitat et nous étions également en compagnie d'Aymeric Crégu qui est directeur métier Axéo Elevation pour Axéo. Merci à vous Aymeric d'être venu. On se retrouve le mois prochain avec un nouveau numéro du bâtiment optimisé. En attendant, cette émission comme toutes les autres sont à retrouver en podcast sur radio.imo et surtout vos agrégateurs de podcasts. Je vous souhaite une très bonne journée.
Le bâtiment optimisé, une émission coproduite par Radio Imo et Axéo, à retrouver en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.